Salut, c'est Stan Wawrinka. Bienvenue dans Le Change, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans et lui 15. Il était timide, un peu silencieux. Bien sûr, on grandit, on change. Honnête, libre, lucide, sans langue de bois. Il assume et c'est bon. C'est peut-être un début de piste pour comprendre son succès. Et surtout pour cerner l'homme. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Salut, Stan Wawrinka. On se voit, on se tutoie.
C'est un peu le rituel. Ça me va bien.
C'est un peu le rituel de l'émission.
C'est okay pour toi.
Parfait. C'est parfait. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est vu?
Non, mais tu vas me rappeler ça.
Ouais. Je te l'ai rappelé, on était au Derby Cadet à la Baule. Okay. Donc pour les auditeurs, c'est l'un des premiers tournois internationaux chez les jeunes. C'est la soirée de lancement du tournoi. Je suis avec Gaël, mon fils. T'es déjà avec ton entraîneur de l'époque, Dimitri Zavialov. Et en fait, on est à la même table. Et on se connaissait pas. Et nous, en bon français, bon petit con français qu'on était avec Gaël, on croit qu'on est à la table d'un étranger, tu sais, donc il parle pas français et tout ça. Et on se moque un peu de toi.
Ouais, bah ça m'étonne pas en plus.
Je me souviens.
je me souviens plus,
qu'on se moque de toi. Et genre 15 secondes après qu'on se moque de toi, il y a ton coach qui dit « Et au fait, demain, on s'entraîne à 14h. » Donc là, on comprend
qu'on parle français.
Que vous parlez français. Donc, on se retrouve bien merdeux tous les deux. Donc, quasiment 20 ans après, je voulais commencer cette émission par te présenter mes excuses.
Voilà. Ouais, je suis pas revenu, ça va.
Déjà, on va commencer par le début. Comment Stan Wawrinka s'est mis au tennis? C'est quoi l'histoire du tennis avec la famille Wawrinka? Parce que je crois que ton grand frère, il est prof de tennis. Et tes sœurs ont joué.
On jouait au tennis aussi. Mes parents, pas du tout, en fait. Mes parents voulaient que mon frère et moi fassions un sport en dehors de l'école, en fait, tout simplement. Et il y avait un club de tennis à 5 minutes et le tennis nous permettait de pouvoir jouer ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est mis. Moi, j'avais 8 ans, le mercredi après-midi avec les autres jeunes, tout simplement.
Il était comment, Stan Wawrinka jeune? C'était un leader à l'école ou un suiveur? T'es peut-être un timide?
Très timide, mais au milieu, je vais dire. Au milieu, c'est-à-dire bon pote avec tout le monde.
Okay.
Qui fait pas de bruit, mais qui passe bien tout ce qu'il faut.
Et des bonnes notes?
Suffisamment bonnes dans notre école. On n'avait pas de notes, mais j'étais toujours... je me faisais pas remarquer, mais j'étais toujours un bon élève. C'est-à-dire, j'ai toujours jamais eu vraiment de problème. Et j'ai fait, comme je dis, ce qu'il faut pour pas être remarqué, mais pour être bien là.
En fait, j'ai constaté quelque chose chez les joueuses et les joueurs de tennis en les côtoyant, c'est qu'ils ont une rage pour faire ce qu'ils font. C'est leur moteur, on sent qu'ils l'utilisent cette rage. Chez certains, ça peut être l'envie de gagner des titres, de marquer l'histoire. Chez certains, ça peut être aussi de rendre fier leur famille ou d'autres même de plaire aux filles ou aux mecs ou encore de gagner de l'argent ou tout simplement de se prouver quelque chose. Toi, est-ce que tu sais ce que c'est chez toi?
Moi, je pense déjà que ça peut vachement évoluer au cours d'une carrière. L'envie qu'on a ou ce qui nous fait commencer le tennis et arriver à un certain niveau peut complètement évoluer une fois qu'on y est. Pour moi, le tennis, depuis très jeune, a été ma passion, tout simplement. C'était quelque chose, je me suis mis à fond dedans. Je pouvais faire des heures et des heures, même tout seul devant un mur. J'ai toujours aimé ça et c'était plutôt vraiment l'envie d'y arriver, l'envie de pousser ses limites, d'aller le plus loin possible. Ça a toujours été un peu mon moteur. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma carrière, encore maintenant. L'envie de me dire que le jour où j'arrête le tennis, j'ai tout donné.
Okay.
Et je sais que c'est quelque chose que je fais bien dans ma carrière, c'est être honnête avec soi-même. C'est important. C'est très important si vraiment on veut aller tout en haut du classement. Et je sais quand je merde entre guillemets ou quand je fais les bonnes choses. Et c'est pour ça que voilà, pouvoir me dire qu'à la fin de ma carrière, le jour où j'arrête, ok, je regarde ma carrière, est-ce que vraiment t'as tout donné ce que tu pouvais? Ça, c'est vraiment mon moteur.
Tu parlais de vouloir aller tout en haut du classement. T'as été troisième mondial au mieux. Et j'ai retrouvé une interview. Quand tu es troisième mondial, tu dis, la journaliste te pose la question, elle te dit, mais est-ce que t'as envie d'être numéro un mondial un jour? Et toi, tu dis, bah oui, mais en même temps, là, les deux qui sont devant, ils sont quasi intouchables. Comment tu peux être troisième mondial et quand même avoir cette réponse-là?
Un, je suis lucide,
okay.
très lucide par rapport à ma carrière et par rapport à ce que j'ai accompli ou ce que j'accomplis et dans la génération que je le fais. J'ai toujours eu comme but, en fait, quand j'étais jeune, mon but n'était pas d'aller tout en haut au classement. Mon but, c'était de devenir un joueur de tennis professionnel. Pour ça, c'était plus ou moins être dans le top 100. Et ça a été vraiment mon premier but. Une fois que je suis arrivé dans le top 100, ça a été d'être top 50, ensuite top 20, ensuite top 10. Donc vraiment toujours par étapes.
Ah ouais, même quand tu gagnes Roland Garros Junior, par exemple, donc tu fais partie des meilleurs joueurs mondiaux de ta catégorie d'âge, c'est quand même juste... au début, c'était dans les sports.
Pour moi, ça a toujours été par étapes. D'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que, comme ça, je me suis mis des barrières. Moi, je pense que bien au contraire, je me suis jamais mis de barrières, sauf que je me suis jamais mis comme but, il faut que je gagne un grand chelem, il faut que je sois top 10 ou top 5. Comme je l'ai dit, quand j'ai gagné mon premier grand chelem, j'ai jamais rêvé de gagner un grand chelem. Ça n'a jamais été un but pour moi. Pour moi, mon but est de progresser et de faire le travail qu'il faut pour se donner le maximum de chances que quand tu rentres sur le terrain, tu es prêt à battre tout le monde, peu importe quel joueur. Et c'est vrai que quand j'étais 3 mondial, j'étais lucide, j'étais très très loin du numéro 1. Il me semble qu'il y a eu un tournoi où en commençant le tournoi, en fait, si j'allais vraiment au bout, je pouvais être numéro 1 mondial.
Okay.
Parce qu'on était tous un peu,
d'accord,
entre guillemets,
ouais, mathématiquement
plus proches.
Possible, voilà. Ok.
Mais sinon, c'est clair que, on est dans une génération qui a les 3 plus grands joueurs de tous les temps en même temps. Donc, ils ont peu laissé aux autres.
Ouais, on va y venir. Tu as l'image. Alors, est-ce que c'est parce que sur le terrain, il y a une dimension physique et une puissance qui parle d'elle-même? Mais tu as l'image d'une brute de travail. Est-ce que tu l'as toujours été? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as obtenu ou que tu as gagné en te disant, bah oui, si pour, justement pour atteindre tes objectifs, tu t'es dit, bah, il faut que je passe par là?
Moi, je dirais que justement, le travail et aimer ça, ça a été mon vrai talent à la base. Je pense que avant de gagner Roland Junior, j'étais bon, mais dans les catégorie plus jeune, j'ai jamais été le meilleur de mon âge, même en Suisse, j'ai jamais gagné les championnats suisses.
Okay, d'accord.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même ressortir parce que je pense que pour les jeunes actuellement, voire plus jeunes et surtout les parents aussi, il faut pas trop mettre d'importance dans ces tournois justement catégorie plus jeune.
Ouais.
Je pense que la carrière est beaucoup trop longue pour que ça soit si important. Et c'est vrai que le fait que je sois jamais dans les meilleurs, pour moi, il fallait travailler plus, fallait en faire plus. Et j'ai toujours en fait aimé ça. J'ai toujours aimé passer du temps sur le terrain, que ce soit sur le physique aussi, au fitness, vraiment essayer de repousser les limites, que je disais, pouvoir atteindre le maximum de mes capacités.
On est obligé de parler de lui. Tu as gagné 3 grands chelems. Donc si tu étais français, tu serais élevé en statut.
Peut-être un problème aussi, ça.
On en parlera aussi. Mais en Suisse, il se trouve que tu accomplis tout cela et c'est un accomplissement exceptionnel, bien sûr, en même temps que les Rogers. Comment tu as géré cet aspect-là de gagner des grands chelems, mais d'être dans un pays qui est petit par la taille et par le nombre d'habitants, donc Rogers qui prend de la place. Comment toi, tu as géré cela quand tu as réussi à gagner
Il y a eu des périodes difficiles parce que forcément, je suis pas jugé à ma valeur, entre guillemets.
Tu ressentais ça?
Ah oui, sur beaucoup de choses.
Ah ouais?
Que ce soit du côté de la presse, que ce soit d'autres choses aussi, forcément. Après, pour moi, depuis toute ma carrière, depuis que je suis arrivé sur le tour, il était là.
Ouais.
Donc pour moi, j'ai surtout pris la chance d'être dans le même pays que le plus grand joueur de tous les temps.
Okay.
Et pour ça, il y a plein de domaines. Un, pouvoir jouer pendant 10 ans la Coupe Davis avec lui, pouvoir s'entraîner avec lui, pouvoir parler avec lui, pouvoir échanger, pouvoir apprendre énormément de lui, pouvoir gagner la Coupe Davis grâce à lui aussi, pouvoir gagner les Jeux Olympiques grâce à lui. Donc, si je regarde sur ma carrière, pour moi, il y a toujours eu beaucoup plus de positifs que de négatifs.
Ouais.
Et ça, c'est une chance énorme. Après, je dirais, le vrai souci, en fait, avec lui et en Suisse, c'est que c'est plutôt le regard des gens, en fait. Ils oublient que Roger Federer ne peut pas être jugé sur sa carrière. C'est un monstre, c'est un génie, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Donc en fait, dans le monde entier, il est au-dessus de tous les autres joueurs. Et en fait, le problème en Suisse, c'est qu'il compare. Comme dans tous les pays, mais pendant des années, ils ont essayé un peu de comparer. Ben, forcément, peu importe ce que j'allais faire, n'était jamais assez bien.
Bien sûr.
Et c'est peut-être c'est là où il y a un problème de vision par rapport à Roger qui, pour moi, devrait être pas classé dans aucune comparaison avec n'importe quel joueur.
Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit pour atteindre les objectifs que tu voulais atteindre? Entre parenthèses, entre guillemets, il faut que je tue l'idole. Il faut que...
Non, parce que j'ai pas eu besoin de le battre pour gagner mon premier grand chelem, déjà.
Tu le bats assez rapidement quand tu arrives...
Oui, je l'ai battu en 2009.
Ouais.
Ouais, il sortait de son mariage, il s'était pas entraîné sur terre
non,
battu.
Mais voilà.
Je l'ai joué, il était arrivé un peu comme ça. Je pense qu'il avait bien fêté son mariage et tout. Voilà. Enfin, je suis assez lucide de cette fois-là où je l'ai battu. Il n'y a pas de souci. Après, je veux dire.
Oui, quand tu le bats en finale de Monte Carlo.
Voilà, là pour moi, ça c'est un vrai match, comme à Roland Garros en quart de finale. Pour moi, là vraiment, j'ai été plus fort que lui et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour le battre. Mais je suis aussi. Pour moi, c'est celui du. Je dirais, c'est son jeu déjà me dérange à la base. En plus, après, il y a l'aspect mental. On se connaît tellement bien depuis toujours.
Ouais, l'affectif.
Et surtout, qui arrive vraiment à le battre plus d'une fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, mes statistiques contre lui ne me dérangent pas.
Oui.
Pour moi, ce n'est pas un souci. On dit souvent que j'ai un problème contre lui, mais c'est la même chose que contre Rafa et c'est la même chose que tous les autres joueurs contre ces génies.
Mmh. Ouais, moi je ne voulais pas du tout dire que tu avais un problème avec lui, mais plus que, putain, quand tu arrives, ça ne doit pas être facile, quoi.
Je pense que dans les premières années, ça m'a surtout beaucoup aidé. Moi, j'étais très, très timide.
OK.
Donc, j'étais content qu'on ne parle pas trop de moi. J'étais content d'être à l'ombre et tout. Et comme je l'ai dit, pendant des années, quand je suis arrivé sur le tour, on s'entraînait énormément ensemble sur les tournois. On discutait. Je pouvais même vraiment parler du tour, du tennis, des adversaires. Donc, pouvoir faire la Coupe Davis avec lui, comme je l'ai dit, pour moi, il y a eu beaucoup plus de positifs.
Ok. Est-ce que tu disais que tu étais très timide? Est-ce que c'est le fait de gagner qui t'a rendu moins timide ou est-ce que tu es devenu moins timide et c'est ça qui t'a fait gagner?
Je pense que c'est plutôt le deuxième côté. J'ai pris confiance en moi. J'ai réussi à me développer côté personnel pour pouvoir ressortir ces résultats sur le terrain, tout simplement.
D'accord. Tu l'as évoqué il n'y a pas longtemps dans une de tes réponses. Tu parles de ton premier titre du Grand Chelem. Un an avant, en 2013, à l'Open d'Australie. Et j'encourage tous ceux qui vont écouter cette émission d'aller même se refaire le résumé de ce 8. C'est un 8e de finale contre Novak quand tu perds 12-10 au 5e, je crois.
8e, ouais, je crois que c'est voilà. 8e.
Voilà. Juste pour la qualité du jeu qui a été produit, c'est juste phénoménal. On a l'impression que tu peux pas mieux jouer au tennis que ça. Tu domines Novak une bonne partie du 5e set. Et il arrive à te battre après une balle de match monstrueuse en plus. Enfin, au bout de plus de 5 heures de jeu, vous arrivez encore à évoluer à ce niveau de jeu. Est-ce qu'à la fin d'un match comme ça, tu te dis « Putain, j'y arriverai jamais. »
Alors,
ou alors peut-être que ça t'encourage.
Non, pour moi, ce match a été un déclic.
Okay.
Pour moi, l'année d'avant, j'ai eu une période où j'ai perdu deux matchs compliqués contre Tsonga à Roland-Garros sur deux jours. Et juste après, contre Melzer à Wimbledon, 8-6 au 5e. Et là, c'était une période compliquée avec les Jeux Olympiques qui arrivaient et tout. Et je sais que cet été-là, pour moi, mentalement, ça avait été très difficile. J'étais plutôt justement dans l'esprit, j'arriverai jamais à gagner ces gros matchs qui peuvent peut-être changer une carrière ou un gros tournoi.
D'accord.
Et j'ai une grosse remise en question par rapport à ce que je voulais, comment je voulais, comment je pensais voir la suite et qu'est-ce que j'allais donner. Est-ce que j'allais me satisfaire d'être top 20, qui est déjà une très très belle carrière, j'étais déjà très content, ou est-ce que j'allais encore pousser plus dans tout ce que je faisais pour essayer de me donner les moyens d'aller plus haut? Et j'ai choisi la deuxième option, forcément.
Mais alors, tu dis que tu t'es remis en question durant cet été-là. Ça passe par quoi? C'est une discussion avec ton entraîneur? C'est avec toi-même?
Ça a été... ça a été une discussion un peu avec mon team de l'époque. Déjà, je me rappelle ici dans la maison, je pense que c'était juste celle d'à côté, une discussion difficile parce que c'était après le match contre Melzer. En plus, vraiment, j'étais pas au mieux mentalement où je voulais être. Et après, c'est surtout moi directement, par rapport à mes envies, par rapport à qu'est-ce que je suis prêt à faire, comment je suis prêt à le faire. Et c'est ça qui m'a permis. Je dirais, ça m'a relancé un peu pour me dire, ok, allez. Ça faisait maintenant quelques années que j'étais dans le top 20, en jouant bien et tout, mais en manquant le petit truc pour aller plus haut, tout simplement.
Et donc,
revenons à ce match-là,
à 2013,
qui a été pour moi un match déclic mentalement. C'est clair que sur le jeu, je jouais très 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 bien pendant un set et demi. J'étais dominateur sur le terrain. Vraiment, j'ai un petit peu flanché sur certains moments mentalement, mais en même temps, je suis revenu au quatrième.
Oui.
Et le perdre a été très difficile. J'en ai pleuré le soir même. Ça a été compliqué. J'ai tout donné. Mais je sais que dans ma tête, ça m'avait prouvé et je m'étais dit, ah ben, je suis pas si loin et je pense que je vais être capable de le faire, de battre le numéro 1. D'ailleurs, il a gagné le tournoi après super facilement.
Parce que c'était le grand Djokovic. C'était
l'année où il perdait pas en Australie.
Exactement.
Et voilà, c'est clair que ça a été un match qui mentalement m'a changé.
Quand enfin tu gagnes l'année d'après, qu'est-ce que tu ressens?
Gagner un grand chelem, c'est énormément d'émotions. Il y a tout qui revient en même temps. Il y a tout ce que tu as sacrifié dans toutes tes années de travail. Il y a tous les entraînements que tu as fait. Il y a toutes les fois où tu as regardé la finale d'un grand chelem à la télévision et que tu as vu le joueur soulever la coupe. Ouais, je dirais que c'est de l'euphorie qui est là sur le moment. Puis en même temps, bah, il y a tellement de choses que tu dois faire. Et comme c'est la première expérience, tu es un petit peu perdu. Donc, tu suis un peu ce que tu dois faire. Il y a la remise des prix. En plus, Rafa s'était un petit peu blessé pendant le match. Donc, voilà, il y a des sensations qui sont un peu particulières. Mais c'est clair que ça reste énorme parce que en tant que joueur de tennis, il n'y a pas mieux que gagner un grand chelem, tout simplement.
Moi, j'ai envie de parler aussi de la finale de Roland-Garros, dont j'y étais. C'est une balle de match rêvée, je pense, pour tout joueur de tennis, mais pour un mec à un revers à une main, c'est juste incroyable. Tu es plus fort globalement sur tout le match contre Djokovic. Est-ce que là, justement, par rapport à ce que tu te disais en 2013, où tu te dis « Ok, j'ai ce qu'il faut », est-ce que là, c'est le… Parce qu'en plus, première finale, tu te dis « Rafa un peu blessé ». Donc, tu vois, est-ce que là, tu te dis « Bon, bah ok, j'ai battu le numéro 1, la régulière, en finale de Roland-Garros ».
Je me dis pas ça, mais il y a plusieurs… Enfin, je pourrais parler des heures, plein de moments, mais je dirais l'année où, quand j'ai gagné l'Australie, j'ai rejoué Novak, justement, en quart. Mm-hmm. Et on a refait de nouveau un match en 5-7, 9-7 au 5e. Et je me rappelle, à ce moment-là, quand on commence le 5e set, d'être dans ma tête et de me dire, celui-là, je ne vais pas le laisser partir. J'avais perdu en 2013 contre lui en Australie. Exact. J'avais perdu en demi-finale de l'US Open la même année, en 5-7 de nouveau. Et ce jour-là, je m'étais dit, il t'échappera pas. C'est pas possible. Et voilà, à la fin, je l'emporte. Donc, j'avais réussi vraiment à tourner quelque chose. Et je dirais, il y a gagné un grand chelem, il y a plein de petits moments clés. Je me rappelle très bien quand j'ai battu Novak. Donc, je joue en demi, je devais jouer Berdych, qui était, je crois, 6e ou 5e mondial à cette époque-là. Je me rappelle encore que dans ma tête, c'était déjà un super tournoi.
Ouais.
Donc rien, mais j'étais arrivé après le quart, j'étais là, je ne vais pas perdre contre Berdych.
Ouais.
Je ne vais pas lâcher cette opportunité, laisser passer cette opportunité. C'est pas possible. Et c'est là où la tête joue beaucoup et la confiance joue beaucoup. Et je le dis pas, je me le dis pas pour me persuader. Je le dis juste, je sais qu'en rentrant sur le terrain, il partira pas ce match. Il partira pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, la finale, pendant un set et un break, je joue le meilleur tennis de ma vie. Et c'est là où Rafa se blesse un peu. Après, à Roland, ça a été tout le tournoi a été un petit peu similaire.
Okay.
L'année où j'ai gagné. Je jouais très bien dès les premiers tours. Je me rappelle, j'avais vraiment très très bien joué. Je joue Roger en quart, extrêmement nerveux sur le Lang Lane. Et pour moi, c'était, je pense, c'est une des fois où j'étais le plus nerveux de jouer Roger parce que je sentais que je jouais bien. Je savais que, voilà, que j'étais capable de le faire, mais ça reste Roger. Et tu sais que sur un match en Grand Chelem, c'est compliqué. Et pareil, j'avais très très bien joué. Il y a les conditions un peu difficiles du vent. J'avais battu en 3-7. Donc vraiment content et en demi-finale bah, je joue Joe où là on sait que ça va être on sait que ça va être une grosse bataille. On s'est joué plusieurs fois à Roland, des conditions complètement différentes. Là vraiment là ce jour-là il faisait extrêmement chaud.
Ok. Donc là, tu te dis, est-ce que tu te dis c'est bon pour moi ou c'est pas bon?
C'est jamais bon de toute façon, c'est jamais bon, mais c'est clair que j'étais pour moi c'était dans le même état d'esprit.
Ok.
Je vais pas perdre en demi-finale de Roland.
Ok.
Je pouvais pas. C'était dans ma tête, dans ma conception, c'était.
J'ai battu Roger en quart, je peux pas m'arrêter en demi contre.
Non, je me pose, enfin, je compare même pas, mais
Ok.
c'était vraiment, c'était pas un moment pour s'arrêter. C'est une demi, c'est une chance. Pour moi, c'était, t'es en demi, prends cette chance, prends cette
Ouais.
opportunité d'aller en finale et de pouvoir continuer ton tournoi, tout simplement. Et la finale contre Novak, qui était, je crois, invaincu depuis 30 matchs ou quelque chose comme ça,
Numéro un
archi
mondial, bien
favori.
sûr.
Je pense que personne n'aurait dit que j'avais une chance contre lui à ce
Exactement.
moment-là, ce qui est normal parce qu'il était tellement, tellement fort sur cette période. Pareil, il y a eu de la nervosité, mais il y avait une certaine confiance par rapport à ce que j'étais capable de faire. Je me rappelle, je suis rentré sur le terrain, très très nerveux.
Ouais.
Et juste avant de rentrer, quand on monte les escaliers et couloirs, je me rappelle, je me suis parlé tout simplement et je me suis dit, mais rappelle-toi toutes les fois que tu as vu cette entrée à la télévision, toutes les
Ouais.
fois que tu as rêvé à regarder des autres joueurs.
T'arrives à te dire ça genre à 5 minutes
Ben
avant la
justement,
finale.
oui, c'est ce
Ok.
qui m'a aidé. Et dans ma tête, je me suis dit, mais tu vas rentrer, tu vas d'abord kiffer. Tu vas kiffer, tu vas regarder le public, il fait super beau. Tu te dis, et tu vas t'imaginer que tu es en train de
Ouais.
regarder cette finale, justement. Et ça m'a beaucoup aidé, justement, pour profiter un peu. Et c'est ça enfin, que moi, j'ai remarqué dans ma carrière, souvent, tout va tellement très vite. On a du mal vraiment à profiter, à réaliser sur le moment de ce qui se passe. Et ce moment-là, je voulais le prendre vraiment pour me dire, voilà, tu es en finale de Roland. C'est peut-être ta dernière finale de ta carrière, tu sais pas, peu importe. T'as pratiquement vu toutes les finales de Roland à la télévision. Profite de voir ce qui se passe.
Est-ce que tu te souviens du premier point de cette
Ouais,
finale?
je crois que c'était un rallye de 35.
Incroyable.
Un rallye déjà là. D'un côté, je me dis, oula,
Ouais.
t'as déjà le souffle qui est tout en haut. Puis d'un autre côté, je sais que c'est ce qui me met dans le match en général, justement, des rallyes. Je me suis tout de suite dit, au moins, tu sens bien la balle, tu bouges bien. Mentalement, tu seras là. Ça va être dur, mais tu vas donner un fight. Et je me rappelle que premier set, on était les deux bien nerveux,
Ouais.
donc on s'observait un peu plus que vraiment on rejouait relâché. Et à 5-4, quand il sert pour le set, il me semble qu'il met 40-15, et je reviens dans le jeu avec deux très gros points où il fait une amortie. Et après ces deux points, il y a eu un truc dans ma tête. Je me suis dit, c'est bon. Là, t'es parti pour
OK.
vraiment le pousser. Je dis pas que je suis parti pour gagner, mais pour moi, ce moment-là, alors que je perdais 5-4 et tout, j'étais là, ok. Je sentais que, en fait, je m'étais relâché d'un certain niveau et que j'allais pouvoir vraiment donner tout ce que j'avais.
Est-ce qu'à un moment tu t'es vu gagner
Pas cette
Roland?
fois-là.
Non.
Non.
Jusqu'au
En
bout, non.
Australie, oui.
Ok.
En
Oui,
Australie
bien
contre
sûr.
Rafa, quand je mène de 7 à 0 et qu'il est blessé et qu'il
Ouais.
joue entre deux, et c'est ça qui m'a fait aussi perdre le troisième, qui m'a sorti un peu, c'est que j'ai regardé la coupe et je me
Ouais.
suis dit, tiens, c'est peut-être ton premier titre de Grand Chelem. Et là, à ce niveau-là, des petites pensées qui te sortent comme ça du match peut te faire perdre une
Bien
finale,
sûr.
peu importe contre
Bien
qui.
sûr.
Et contre Novak, non, parce que hein, je le connais par cœur. Je
Ouais.
sais que contre lui, même si tu le domines, tu archi-dominé, même quand tu as le break et tout, je sais que deux points peuvent tourner le match, qui peut revenir. Et pas une fois, je me suis gagné, même à 5-4 quand je sers pour le
Ouais.
match. Il me semble que j'ai une première balle de match. Ensuite, à égalité, il y a de nouveau un point où j'ai, je crois, un coup droit facile et je rejoue dans son revers, il me passe alors qu'il prend le bon côté. Par contre, à ce moment-là, j'ai pas paniqué. Je me suis pas dit, ah tiens, le match, il va t'échapper. Je me suis dit, c'est toi qui mènes 5-4. Ouais. Donc, même si te break, t'es toujours devant. Ça veut dire que t'as trouvé les solutions pour le prendre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé pour le prendre après. Et c'est clair que la balle de match, pour moi, c'est la balle de match rêvée. Le revers long de la ligne gagnant, c'est mon coup préféré. C'est celui que je kiffe le plus.
Ouais, tu le fais pas mal.
Ça va, ça dépend des gens, mais c'est vrai que c'est mon coup préféré. Celui que et finir comme ça, c'est juste un rêve.
Tu te souviens de ta première victoire contre Nadal?
Bah, c'est en Australie. Voilà. Ouais, pareil. Là, de nouveau, on parlait de statistiques avant les finales, parce que forcément, c'est ce que la presse prend et c'est ce que les gens prennent.
Mais
toujours.
Est-ce que toi, ça joue un rôle? Par exemple, tu te dis, je vais jouer ma première finale de Grand Chelem et en plus, je suis mené 12-0 contre Rafa.
Non. Et c'est ce que j'avais dit à mon team et je l'avais dit à la presse aussi. Pour moi, les statistiques, c'est le passé.
Ok.
C'est la réalité du passé. Et c'est là où je sais que j'ai été fort dans ma carrière, c'est que quand je rentre sur le terrain, je sais tout de suite si je rentre pour gagner ou en tout cas pour tout donner, ou si je rentre déjà un peu mentalement en étant fébrile, en me disant « Ah, ça va être dur parce que c'est Rafa ou parce que si ». Et là, pour moi, c'est clair que je n'avais jamais gagné un set, mais j'étais bien. Je suis entré sur le terrain, je suis entré pour gagner. De toute façon, hein, c'était ma première finale en plus. Je joue Rafa, ok, j'ai jamais gagné un set, mais voilà, c'est pas grave, c'est en finale, j'ai jamais joué en finale de Grand Chelem, donc c'est un nouveau match.
Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que justement le fait de pas avoir ce passé-là, parce que moi je sais, enfin tu vois, t'entends des joueurs, et c'est vrai que parfois quand le joueur c'est un peu le pigeon d'un autre, c'est-à-dire qu'il perd tout le temps, il se dit bon bah voilà, là en plus avec la dimension un peu émotionnelle, il part pas gagnant. De faire abstraction de ça, c'est ça qui explique ton taux de réussite exceptionnel en finale de Grand Chelem. 3 finales, 3 victoires, 3 fois contre le numéro 1 mondial.
Bon, forcément un peu. Après, c'est clair qu'on a des types de jeux qu'on aime mieux jouer que d'autres. Mais après, c'est clair que pour moi, en finale de Grand Chelem, j'ai eu la chance. C'est 3 sur 4, c'est où j'ai joué le meilleur tennis de ma carrière. Mais parce que je rentre sur le terrain pour gagner, je pense qu'il y en a beaucoup, et il y en aurait beaucoup quand ils jouent Rafa numéro 1 ou Novak imbattable numéro 1, ils rentrent sur le terrain en se disant « Ouais, ça va être dur, c'est pas grave, je suis en finale, j'ai fait finale, c'est déjà bien. » Et ça, je le vois dans notre génération, ces 10-15 dernières années. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de matchs d'autres joueurs où tu le vois direct, tu le sens.
Exactement.
Ils ont déjà 10% de moins aujourd'hui parce qu'ils jouent l'adversaire.
Bah, où est-ce que tu vas aller chercher ces 10%-là?
Bah, l'envie de gagner un grand chelem, l'envie de rien laisser donner et de se dire que... Enfin, j'ai dans ma carrière, j'ai vachement évolué forcément en tant que joueur, forcément, mais mentalement aussi. Je suis arrivé à un point, à un certain moment où j'avais des convictions, où quand je rentrais sur le terrain, il y avait des matchs, des jours où voilà, je savais que j'allais pas le laisser partir.
Okay.
Mais je me suis toujours dit, quand je me dis ça, je le dis pas d'une façon arrogante en disant ouais, je savais en rentrant sur le terrain que j'allais gagner le match. Je dis juste que quand je dis je vais pas le laisser partir, c'est que je sais que je vais tout donner. Je sais que je vais jouer probablement un très très bon niveau, que je vais me battre et que mentalement je vais être stable et que je vais vraiment être là tout au long du match. Après, si je perds le match, bah, c'est arrivé plusieurs fois. On perd des matchs, mais en étant entre guillemets content parce que bah il a été plus fort.
Ouais. On va parler un petit peu des autres. Là, on est. Je trahis un secret, donc on est après ton premier tour de Wimbledon que tu viens de gagner. Tu joues ton deuxième tour demain et à la télé, Yannick Kyrgios par exemple à l'écran. On va pas parler de l'incident qu'il y avait eu avec vous parce que c'est l'histoire ancienne. Juste, on entend un peu de tout sur lui, qu'il fait du bien au tennis, il y en a qui disent qu'il ne respecte pas le jeu, il y en a qui disent que c'est le nouveau McEnroe, enfin voilà. Est-ce que tu as l'impression que sous couvert de folie, qu'on dit qu'il apporte du nouveau dans le tennis, est-ce que du coup on lui pardonne un petit peu tout?
Bah, je dirais forcément, ces joueurs qui font beaucoup sont un peu plus pardonnés que ceux qui font très peu et qui tout d'un coup font quelque chose de grand. Ça, c'est clair. Après, c'est un joueur extrêmement talentueux, qui joue très, très bien. Et sa folie fait que même quand il joue à moitié, il est très difficile à battre. Est-ce qu'il fait du bien au tennis? Forcément, il en fait. Okay. On parle du tennis, on parle de lui, les jeunes l'adorent.
Ouais.
Beaucoup de monde l'adore. Il joue un tennis qu'on voit très peu, ça c'est clair. Mm-hmm. Après, il y a toujours cette barrière entre respecter les gens qui sont autour ou qui travaillent sur le tour et faire son show qu'il fait sur le terrain, tout simplement. Mais voilà, c'est clair que c'est sa personnalité. Il est comme il est et bah, il sera toujours comme ça.
J'ai oublié de te poser une question quand on parlait des trois, Rafa, Novak et Roger. Il y a un enjeu qui prédomine, c'est est-ce que Roger va rester devant Rafa? Est-ce que Novak va les rattraper?
Au niveau des grands chelems.
Au niveau du nombre de grands chelems. Et on a un peu l'impression que bah, ils ont battu tellement tous les records que quelque part, bah, il ne reste plus que ça, quoi.
Non, mais ça, c'est clair. C'est clair que c'est je pense, ce qui va quand même, à la fin de leur carrière, de toute façon, c'est ce qui fait parler. Ça, c'est clair, on est d'accord. Mais c'est ce qui va, vu qu'ils sont très proches dans tout le reste, c'est ce qui va, à la fin de leur carrière, mettre le plus grand joueur, entre guillemets, devant. On est d'accord là-dessus.
On est d'accord là-dessus.
Sauf si vraiment, il y a un écart énorme ailleurs. Mais vu qu'ils sont quand même très proches dans tout, le nombre de grands chelems va beaucoup
c'est
jouer.
C'est ça, ok.
Ça, c'est clair. Pour l'instant, on sait qu'il a.
Exactement. Et donc, la prochaine question, c'est est-ce que tu penses que Rafa va dépasser Roger? Ou est-ce que tu penses que Novak va tous les coiffer?
Moi, je pense qu'il va falloir faire très attention à Novak.
Ok, d'accord.
Personnellement. Après, on l'a vu à ce niveau-là et aussi aussi loin dans leur carrière, très peu de choses peuvent tout chambouler. On l'a vu avec Novak pendant un an et demi, il avait complètement disparu. Surtout chez lui, où vraiment c'est la perfection, entre guillemets, tout doit être parfait pour qu'il joue son meilleur tennis. Et quand il joue son meilleur tennis, c'est hallucinant.
Ouais.
Mais voilà, mais c'est clair que on a une chance énorme de les voir jouer les trois en même temps dans la même période.
Ça, c'est sûr. Par exemple, là, Rafa vient de gagner Roland. Et il dit je regarde pas ce qui se passe dans le jardin de l'autre, du voisin. Mais est-ce qu'ils y pensent?
C'est sûr qu'ils y pensent.
Okay.
C'est sûr qu'ils y pensent. Après, c'est pas leur motivation
bien
ultime.
Sûr.
Et en
bien
fait,
sûr.
C'est quand il dit il regarde pas ce qui se passe, il a raison et j'en suis sûr. Il le dit honnêtement.
Ouais.
Et il regarde pas, c'est pas ça qui le pousse à aller gagner, parce qu'il sait très bien ce qu'il faut pour gagner un grand chelem. Et c'est pas en se disant, ah, il faut que je gagne celui-là pour passer l'autre. C'est plutôt en continuant à se focaliser sur ce que tu fais dans ta carrière qui va de toute façon continuer et le faire continuer à gagner.
Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses? Est-ce que, alors, moi, je sais pas, mais tu vas peut-être nous me le dire. Est-ce qu'on se sent de gagner un grand chelem? Est-ce qu'un jour, on se réveille, on se dit « Ok, est-ce que là, voilà, en 2013, tu dis « Ok, là, quand tu perds alors un match contre Novak à l'arrache comme ça, où tu joues super bien et où tu joues mieux que lui, est-ce que tu sens que tu es capable d'en gagner un et là, est-ce que tu te sens encore capable de le faire ?» Avec ces trois-là, avec les autres qui arrivent
Alors, moi, personnellement, je ne me suis jamais senti capable d'en gagner un jusqu'au jour où je l'ai fait, jusqu'au jour où je suis arrivé sur cette finale. Parce que quand tu es sur une finale, ben, il ne te reste plus qu'un match à gagner pour gagner.
Ouais.
Mais avant ça, je ne me suis jamais mis dans la tête, bah, tiens, je suis peut-être capable de le gagner. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point un grand chelem sur deux semaines, tous les deux jours, tu joues et il suffit d'un mauvais jour, il suffit d'un jour où tu es un peu moins dedans, où justement mentalement tu n'es pas au top, tu as beau jouer ton meilleur tennis les deux semaines d'avant, tu as perdu. Et moi vraiment, ça n'a jamais été mon but et ça n'a jamais été ma motivation et j'ai jamais pensé que j'étais capable de le faire jusqu'à cette finale. Ensuite, ça a changé pas mal de choses, on va dire ça comme ça. Est-ce que personnellement, je pense que j'ai encore les moyens de faire quelque chose de très grand dans un grand chelem.
Ok.
Est-ce que je vais l'accomplir? Je ne sais pas. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut en dehors pour me pousser et pour me donner des chances de l'accomplir. Mais c'est clair que je pense que j'ai encore de gros résultats en moi.
Ok. Tu as une phrase fétiche? tatoué. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Donc en français, c'est déjà essayé, déjà échoué. Peu importe, échoue encore, échoue mieux. Donc c'est une phrase de Samuel Beckett. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cette phrase? Ou est-ce que tu l'as découvert par toi-même?
Par moi-même, il y a pas mal d'années maintenant déjà. Mais c'est clair que c'est, pour moi, ça a toujours été le reflet, entre guillemets, de... Un, d'un joueur de tennis.
Ouais.
Deux, de ma carrière. Trois, de ma mentalité et même de la vie en général. Je veux dire, pour moi, ce qui est important n'est pas de... ce qui est important en général, c'est d'apprendre des erreurs. Des erreurs, apprendre des défaites, de toujours regarder un peu le côté positif.
Ouais.
Et d'être honnête par rapport à ce qu'on a mal fait, si on veut vraiment apprendre et évoluer. Et dans le tennis, encore plus avec dans notre génération,
ouais,
ils nous ont rien laissé, les quatre, parce que je m'aimerais aussi là-dedans,
oui,
qui doit avoir 40 titres ou je ne sais pas combien de finales et demi. Ils nous ont rien laissé. Donc à un moment donné, tu dois te satisfaire d'une défaite,
ouais,
tout en te disant, tout en prenant le positif, en regardant ce que tu as mal fait pour essayer que la défaite arrive le plus tard possible. Et voilà, ça a été un peu ma vision dans ma carrière et ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que pas toutes les défaites sont mauvaises.
J'ai revu des images quand tu gagnes tes grands chelems. Par exemple, US Open, tu gagnes dans une atmosphère incroyable, il y a tout ton clan, Magnus ton entraîneur, il y a ta famille. Et même dans tes gestes de célébration, je trouve qu'il y a de la retenue. T'es impudique, non?
Ouf, oui et non, mais après, je me rappelle d'une discussion avec Gaël, mon fils,
ouais,
après mon titre à Melbourne, mon premier titre. Et on s'était vu à Genève et tout ça, et il me dit, ouais, mais Stan, pourquoi t'as rien fait en gagnant ton grand chelem? On se serait tous jetés par terre, sauter. Et je vais avouer un truc, c'est clair qu'avant la balle de match, je me dis, tiens, fais un truc.
Ok.
Fais un truc, couche-toi par terre et tout. Sauf que moi, je pense qu'une de mes forces aussi dans ma carrière, c'est que je suis honnête, je suis ouvert et j'essaye pas de jouer ou d'être quelqu'un. Je suis comme je suis. Et une fois que, de toute façon, une fois qu'on joue la balle de match, on n'y pense plus, ouais, on est dans le truc. Et il n'y a aucune retenue dans ma célébration. C'est juste, je suis comme ça.
Ouais.
Je suis comme ça, ça me suffit. Pour moi, si vraiment vous voulez voir d'autres trucs, il va aller venir à l'after party. Où là, vraiment, je me lâche parce que je suis avec ma famille, mes amis. Et puis, c'est là où je me sens complètement à l'aise. Mais sur le terrain, il n'y a pas de retenue.
Ouais.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
On l'a vu pendant des matchs. Je veux dire, que ça soit du positif ou du négatif, je sors vachement les émotions. Mais c'est clair. Et à Roland, c'est pareil. Je m'étais dit, ah bah, si tu gagnes, fais un truc de fou. Mais on réfléchit pas. Pour moi, important, c'est pas de calculer, de réfléchir. Faut pas que ça devienne faux. C'est sorti comme ça. J'étais content. J'ai jeté ma raquette. Je suis allé au filet. Voilà. Ça me suffit. J'ai pas besoin de plus.
Quand on te connaît un peu, c'est quelque chose qui te caractérise, je trouve. Et tu parlais, là, tu parles avec Gaël, déjà, on parle la même langue, tout ça. Donc, voilà, il y a une proximité avec cette génération-là, notre génération de joueurs français. Et en fait, je trouve qu'il y a une mauvaise image. Alors, parce qu'il y a eu peut-être deux, trois accrochages, mais c'est plutôt sain. On a l'impression que tu as la langue dure avec les Français. Non, mais... Et comment...
Ouais, on va dire que je pense que mon image a changé,
ouais,
ces dernières années, mais c'est clair que je suis plutôt du style à dire les choses, à dire ce que je pense. Des fois un peu trop, ça c'est clair. Je pense qu'il y a une année où justement, en 2015 à Roland, où les premiers matchs, on m'a sifflé.
Okay.
Je me rappelle très bien, quand j'ai joué des Français, j'avais joué Gilles Simon sur le
ring,
ensuite j'avais joué Joe. On m'avait sifflé parce qu'il y a les histoires de la Coupe Davis juste avant. Et la Coupe Davis, ça avait été un match sous haute tension.
Bien sûr.
Et des deux côtés, il y avait eu beaucoup de sorties dans la presse.
Avant.
Voilà, il y avait beaucoup de sorties dans la presse. Je sais que j'en ai fait une après la victoire qui était peut-être un peu trop loin, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà,
Non, parce que t'es un peu chambreur aussi, il faut le savoir.
Oui, mais comme tous les Français.
Non, mais
moi,
sûr.
Je suis très chambreur.
Complètement.
Et j'adore ça, mais je le fais avec beaucoup de respect.
Ouais, c'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Après, je pense jamais avoir été vraiment méchant. Après, c'est clair que Quand tu dis que j'ai la langue dure, c'est par rapport à quoi, en fait? Enfin, moi, si on me demande mon avis par rapport à certains joueurs français et d'autres, je vais le dire, bien sûr, mais comme je le fais, je sais que voilà, j'ai dit des choses sur Benoît, qui est un pote, on m'avait demandé, et puis j'ai dit ce que je pensais de sa carrière, bien de sa façon d'être, mais j'avais eu la même discussion avec lui et il m'en a jamais voulu, dans le sens où c'était juste honnête, tout simplement.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, c'est clair, après...
Est-ce que c'est parce qu'à un moment vous avez été rivaux
que voilà, ça c'est clair que ça n'a pas aidé certaines relations et puis surtout ça n'a pas aidé non plus entre guillemets je dirais la presse non plus. Je pense que pendant pas mal d'années ils étaient plutôt devant moi au classement et tout ça et en France au niveau de la presse c'est difficile en tant que joueur. Moi je le vois, moi je lis beaucoup la presse mais je m'imagine, à leur place, c'est pas facile.
Tu trouves que la presse française, elle est dure avec eux?
Je trouve que la presse française n'est pas juste au bon moment.
Ok, d'accord.
Je pense que il faut peu de matchs pour qu'ils soient tout d'un coup en première page et des superstars et tout. Et en même temps, sur les mauvaises défaites que je juge en tant que joueur de tennis, ils les descendent.
Trop.
Beaucoup trop.
Ok, d'accord.
Et je pense qu'il y a un juste milieu qui n'est pas trouvé dans la presse française. Mais encore une fois, c'est que mon avis extérieur de joueur de tennis. Et c'est clair que je comprends cette frustration française qui n'ait pas eu de vainqueur de Grand Chelem toutes ces dernières années et que c'est difficile, surtout quand on voit la qualité des joueurs qu'il y a eu ces 15 dernières années. Mais du coup, ils ne jugent pas non plus leur carrière à leur juste valeur. Ils ont tous été top 10, ils ont fait finale en Grand Chelem, demi-finale en Grand Chelem. Ils sont dans une génération qui est hallucinante. Et c'est là où peut-être, par rapport à moi qui ai réussi à en gagner, c'est un peu, c'est un peu faussé en fait, mon image, mais d'un côté, il y en a qui sont contents pour moi, puis d'un autre côté, il y en a qui sont jaloux ou qui sont envieux parce que moi, je l'ai fait, pas d'autres. Et c'est peut-être ça. Mais je pense jamais avoir été méchant avec les joueurs français.
C'était pas mes mots. On l'a senti dans certaines de tes réponses, l'importance de l'équilibre entre le joueur de tennis et l'homme, l'être humain. Toi, tu viens d'un petit village en Suisse. Aujourd'hui, tu gagnes beaucoup d'argent. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, même moi, je viens de Bourg-en-Bresse, mais rien qu'avec mon petit parcours dans le tennis, j'ai eu accès à des choses plutôt sympathiques. Comment toi, tu as géré ce décalage entre peut-être d'où tu viens? Et ce que peut t'apporter la richesse, la gloire, la célébrité.
Je pense l'avoir bien géré. Je pense que c'est clair que moi, je viens j'ai grandi dans une ferme avec des personnes handicapées. Mes parents s'occupaient des personnes handicapées. J'ai fait toute ma jeunesse. J'ai été très heureux là-dedans. Mais le tennis est rapidement devenu ma passion. Donc, je suis rapidement rentré dans le monde du tennis. À 100%.
Ouais, bien sûr.
Et ça a commencé au niveau tout en bas. Donc, je suis pas, du jour au lendemain, j'ai pas gagné mon premier Grand Chelem à 19 ans comme les autres. Donc, ça a jamais été vraiment un choc. Mais c'est clair qu'il peut y avoir un gros décalage par rapport à ma vie où j'ai grandi et par rapport à ma vie actuelle. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien.
Ouais. T'es papa d'une petite fille. Est-ce que. C'est quelque chose qui tu puises de la force dans ta paternité. On doit être aussi un modèle dans le joueur et l'homme que tu as envie d'être.
Bon, c'est clair que déjà le fait d'avoir la vie de joueur de tennis fait que je la vois peu. Elle grandit, elle a 9 ans maintenant. Mm-hmm. Pour moi, c'est un bonheur de passer du temps avec elle. C'est aussi quelque chose qui pour moi balance vachement justement ma vie côté tennis et ma vie privée quand je rentre et que je peux être au calme et on le sait, un enfant ça a sa vision d'enfant et peu importe ce que t'as fait la veille, si t'as joué en finale ou que t'as perdu au premier tour, c'est pareil et ça fait beaucoup de bien justement pour garder cette balance.
C'est dur d'avoir une vie d'homme quand on est joueur de tennis comme ça, on joue devant des stades, on est adulé. Est-ce que c'est dur d'avoir une vie d'homme, même voilà, juste dans des rapports un peu simples entre êtres humains?
Je pense que il faut, voilà, c'est une vie différente, c'est clair. Il faut apprendre à garder son entourage, ça c'est sûr. C'est clair que jusqu'à un certain niveau, tout était un peu normal, entre guillemets, mais depuis vraiment que j'ai gagné un grand chelem et que la célébrité est devenue beaucoup plus grande, ben, forcément, il y a plein de choses qu'on change. Je dirais une des choses qui est quand même assez compliquée ou plus compliquée, mais encore, c'est, je le dis pas ça en critique, c'est que tout le monde a envie d'avoir un peu de moi, entre guillemets, surtout en tournoi et tout. Tout le monde a envie d'avoir un peu de temps, avoir une discussion et quand on est en tournoi, quand on est en grand chelem ou d'autres, ben, on n'a pas l'énergie pour. Ouais. Et on n'a pas forcément tout le temps envie. Bien et c'est sûr. Clair que ben, les gens nous voient sur le terrain, nous voient gagner, perdre, ils nous voient en tant que joueurs. Et on doit un peu tout le temps sourire devant eux. On doit tout le temps être un peu de bonne humeur. Et il y a des jours, forcément, comme tout le monde, on n'a pas envie. Des jours où on a moins envie. Et forcément, ben, moi, ça a fait évoluer un peu ma vie et mes décisions pour être justement, pour rester un peu plus tranquille, m'éloigner un peu de beaucoup de choses parce que j'ai besoin aussi de cette tranquillité et de ce calme pour pouvoir me ressourcer et reprendre toute l'énergie que j'ai envie et que j'ai besoin pour après repartir en tournoi.
Je le disais au début de cet échange, on est juste en ton deuxième tour de Wimbledon. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Stan d'après Wimbledon?
D'après Wimbledon, le problème c'est que ça a tellement changé en fonction du résultat. C'est clair. Ça va tellement changer. C'est ça la difficulté aussi mentale dans le tennis, c'est que demain je peux perdre. J'aurais perdu au deuxième tour. Ça aurait été clairement un mauvais tournoi. Donc difficile à digérer. Il va falloir repartir ou je peux être encore là pendant 10 jours. Et c'est là où il faut. C'est là où il faut se connaître, il faut garder son rythme, il faut pas justement penser plus loin, il faut pas viser trop loin non plus, il faut rester jour après jour dans sa routine, savoir ce qui nous fait du bien pour être prêt, surtout en grand chelem. Et voilà, donc pour moi, actuellement, je me sens bien, je suis content. Depuis le début de l'année, je rejoue vraiment un niveau qui me fait plaisir et qui me fait ressentir que je vais pouvoir accrocher de nouveau les tout meilleurs, et j'espère bientôt. Mais le travail, ça ne s'arrête jamais. Et il faut le faire jour après jour, et il faut le faire avec plaisir, parce que plus on a de plaisir, plus ça va aller dans le bon sens. Ouais.
Merci Stan, parce que tu as dit la réponse précédente que voilà, tout le monde a envie d'avoir un peu de toi. Moi, j'avais envie d'avoir cet échange-là avec toi. Et je veux te remercier parce que tu as tenu parole, celle que tu m'avais faite lors d'un dîner un peu arrosé pendant Roland-Garros. On va le taire ici. Une parole d'homme.
Après Roland-Garros.
Hein. Ouais, après si, Roland-Garros, effectivement.
Je t'avais dit que l'alcool ne changeait pas les décisions.
Et que, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être aussi pour ça qu'on t'appelait Stan the Man, parce que t'as une parole d'homme. Je trouve qu'on le ressent dans cet échange. Merci Stan Wawrinka d'avoir échangé avec moi.
Il a perdu le lendemain. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Il pourra m'utiliser comme excuse, même si vous l'avez compris, ce n'est pas le genre de la maison. Il m'a promis un autre épisode. J'en ai de la chance. On se retrouve vite dans Échange. Et d'ici là, eh ben prenez soin de vous.
Hmm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.